Bienheureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Oui, vous qui pleurez maintenant, vous êtes bienheureux, car vous serez dans la joie. Et vous qui maintenant êtes affamés, vous êtes bienheureux, car vous serez rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous maudiront et vous persécuteront, lorsqu'ils vous sépareront de leur société, de leur communauté, et qu'ils vous chargeront d'opprobre, lorsqu'ils proscriront votre nom comme funeste à cause du Fils de l'homme, et qu'ils diront mensongèrement de toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous en ce jour et tressaillez de joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi que leurs pères ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Quiconque ressemblera au maître sera parfait. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, notre Seigneur? Il veut nous dire que le bonheur, il est déjà sur terre, mais à condition d'être très détaché et très juste. Et qu'on peut vous tuer, mais comme il dira à un autre moment, craignez plus celui qui tue et qui jette en enfer. Hein? Donc là, le mot est fort parce qu'en fait, c'est nous qui choisissons l'enfer. Mais d'un autre côté, Dieu a permis l'enfer. Qui jette dans la géhenne de feu, c'est Dieu. C'est plus à la mode de le dire, mais je suis désolé, hein, l'enfer existe. Et donc, mais ne craignez pas ceux qui ne tuent que le corps.
Et qui après ne peuvent rien faire.
Ne peuvent rien faire sur votre âme. Parce qu'elle est dans les cieux. Et les cieux, c'est quoi? C'est vivre avec Dieu. Alors, bienheureux les pauvres. Ce sont ceux qui ne s'attachent pas aux biens matériels. Vous avez des gens riches qui sont détachés des biens matériels. Vous avez des gens pauvres qui ne pensent qu'à la richesse et à ce qu'ils ont. Qui ne sont pas prêteurs et qui sont terribles. Donc bienheureux les pauvres, c'est la pauvreté en esprit, et c'est la responsabilité des riches, mais vous avez, comme je le disais donc hier, vous avez des riches qui sont toujours riches. Ils sont tellement travailleurs, ils sont tellement ingénieux, qu'ils gagnent de l'argent. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Oui. Par exemple, je prendrais l'exemple déroutant, qui n'est pas habituel, d'un restaurateur. Vous avez des gens, ils font de la nourriture, ils la vendent, ils servent les gens à des tables et tout, et ils travaillent tout le temps, et trop peut-être, justement. Mais enfin, du coup, les gens, ils donnent de l'argent pour la nourriture qu'ils mangent, et à la fin de la soirée, ils ont 500 euros, et puis voilà. Enfin, si vous avez 500 euros tous les soirs, à la fin, vous... Et si vous êtes payé en espèces, voilà, ça va bien pour vous. Hein. Alors, vous n'êtes pas énarque, mais vous êtes travailleur, et voilà. Et alors, eux-mêmes ont autant de responsabilités que quelqu'un qui a hérité d'une fortune familiale. Ils doivent utiliser cet argent pour le bien commun. Ils le doivent. Hein. Ils ne doivent pas thésauriser, c'est-à-dire garder cet argent pour rien ou ne pas entretenir les biens qu'ils ont. Enfin, il faut qu'ils le fassent circuler. Et qu'ils entreprennent. Un des péchés contemporains, c'est vrai, c'est le fait qu'il y a des personnes qui ne font pas circuler l'argent. Alors vous avez des États qui lèvent des impôts et qui dissuadent les personnes de thésauriser, mais de manière parfois excessive. Vous avez des gens aussi qui thésaurisent de manière juste pour leurs enfants. Hein, donc, tout ça, c'est bon, après, c'est de l'économie. Hein. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Donc le tempérament doux est loué particulièrement par Dieu. Donc ce qui veut dire que les colériques la colère étant un péché capital, non pas un péché mortel et grave, mais se laisser aller à des actes de colère est un péché s'il n'y a pas de cause proportionnée. La sainte colère, c'est l'indignation énergique face à, comment dire, à un mal présent et fort. Par exemple, vous avez un marteau et vous frappez quelqu'un avec ce marteau. Normalement, c'est un geste violent, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous avez une institutrice, un homme est arrivé dans sa classe et est en train d'essayer de tuer des enfants, et que parmi les instruments qu'elle a pour faire du bricolage avec les enfants, il y a un marteau. Ben, l'institutrice, elle prend le marteau et elle tape sur la tête du bonhomme. Est-ce qu'elle pêche ? Il faut avoir de l'énergie, il faut se mettre en colère, n'est-ce pas ? Il faut être pour taper sur quelqu'un avec un marteau. Mais elle pêche pas. Et, excusez-moi, l'exemple est absolument terrible, mais bon. Eh bien voilà, la légitime défense, vous avez des policiers qui sont dans leur voiture. On casse leurs vitres, on coince les portes et on met le feu dedans. Et eux qui ont des armes, ils étaient au moins trois, mais ils ont péché. Pourquoi ils ont péché ? Ils ont péché contre eux-mêmes d'abord, et ils ont péché contre leurs confrères, parce que s'ils avaient tiré, ils auraient empêché que leurs confrères soient brûlés au troisième degré. Donc tous les trois ont été des lâches. Ah oui, mais ils avaient peur d'être condamnés, parce que la légitime défense est... Ben non. Alors vous allez me dire, mais vous êtes quand même sévère, ils sont victimes et vous dites qu'ils pêchent. Mais c'est la société actuellement qui pêche. C'est du délire. Si les policiers sont à ce point, comment dire, inhibés, qu'ils n'utilisent même plus leur revolver alors qu'on les brûle vifs, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Alors, par contre, ils auraient pu ne pas utiliser leurs armes au nom de Jésus-Christ en disant « C'est un scandale plus fort que de leur tirer dessus. J'accepte d'être brûlé vif au nom de la paix et de la douceur qui se trouvent en sa source, en Dieu et en notre Seigneur Jésus-Christ, doux et humble de cœur. Et je préfère qu'il n'y ait pas d'émeute et que je ne tire pas sur eux. Mais vous pensez qu'ils sont chrétiens à ce point, ceux qui sont dans la voiture de police ?
Eh oui, c'est ça. Voilà.
Et là, ils n'auraient pas péché. Mais il faudrait nous l'expliquer.
Il faudrait que ça se sache.
Il faudrait que ça se sache aussi un peu. Et que justement... à la limite, ceux qui sont victimes passent à la télévision et disent aux assassins « Nous n'avons pas tiré pour la paix publique et la paix sociale. » Mais là, vous exagérez. Et là, puisqu'on est en état d'urgence, on fait venir l'armée au bas de chaque immeuble et on passe tous les appartements au peigne fin. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis déjà un an et qu'on ne fait pas. Et parce que on veut le conflit. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer, c'est être triste parce qu'il y a un mal présent qui nous accable. Notre maladie, notre souffrance, des insultes, un abandon, du mépris de la part de notre époux, de nos enfants, de notre famille, de nos parents. Quelque chose un mal. On est triste parce que on a mal, physiquement ou moralement ou spirituellement. C'est ça, pleurer. Eh bien, Dieu dit à celui qui pleure pour un mal qu'il a commis, donc ça veut dire qu'il regrette le mal qu'il a fait, ou qui pleure parce que un mal l'atteint et il est innocent, il y a une promesse très puissante ici, qui devrait, comment dire, dans sa formulation déjà convertir le monde entier, parce que justement, toute tristesse, tout cri d'une mère qui a son enfant, son bébé mort dans ses bras, Dieu lui promet que ça sera dépassé et qu'elle sera consolée. Le vrai Dieu, lui, ne dit pas « c'était son karma ». Il devait mourir, donc tais-toi. Oublie. Passe à autre chose. C'est pas la consolation par l'endormissement. C'est la consolation par les retrouvailles de l'être aimé. Ou par la réconciliation après la mort. La femme abandonnée prie pour son mari et pour qu'il sauve son âme. Et que dans la vie éternelle, il lui demande pardon. Toutes choses qui sont en effet dans un angle, si vous voulez, de temps. Hein. La vie n'est pas dans l'immédiat, hein, c'est sûr. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Alors là, c'est une petite concession quand même, là. C'est moins gentil. Parce que là, c'est la vraie justice. Hein. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est la maîtresse qui punit l'enfant qui n'a pas travaillé, qui encourage l'enfant qui est intellectuellement limité en matière spéculative, en matière de calcul, en matière de lettres, de maîtrise de la langue, qui fait beaucoup d'efforts, qui le prouve, et la très bonne institutrice qui l'encourage et qui ne le punit pas. Mais un enfant paresseux qui a des moyens intellectuels et qui ne les use pas, et qui n'en use pas, et la maîtresse qui le punit. Et d'un autre côté, même si on punit un enfant alors qu'il a des véritables difficultés, ça le pousse dans ses retranchements et ça peut lui permettre aussi de donner le maximum. Et de lui permettre justement d'avoir plus d'armes dans la vie à l'avenir. Tous ceux qui quittaient l'école en sixième ou en troisième, ça va lire, écrire, compter. Hein, parce qu'il fallait voir comment ils étaient cravachés. Actuellement, une des causes majeures du trouble actuel, c'est la destruction de l'école. C'est tout. Eh bien, la justice, ça vient de l'institutrice. Et à Dieu dans tout ça, ben Dieu, oui, c'est le grand instituteur. Il nous fait la morale, hein, mais il nous fait une morale qui est toujours très juste. Il y a des personnes qui sont moralisateurs et qui sont moralistes. Eh bien, Dieu dit, et vous serez rassasiés. Ah, tiens. Donc, ceux qui sont impatients que justice soit faite, Dieu leur dit, non, toute justice sera accomplie. Ah bon? Celui qui a tué ma famille, il sera décapité, il sera puni. La justice sera accomplie. Et en Chine, il y avait un élève d'un professeur de boxe, d'arts martiaux et de boxe, hein, qui était entré dans les jeunesses, les gardes rouges, et qui avait, revenant dans le village avec les autres gardes rouges, avait tué la famille de son professeur. La femme, les enfants. Et comme les gardes rouges n'ont pas été vraiment punis, et que s'il y a eu des procès retentissants pour les chefs, on n'a pas poursuivi tout le monde. Hein. C'est comme au Cambodge, hein, les Khmers rouges n'ont pas tous été punis. Hein. Il y en a qui sont revenus au village alors qu'ils avaient tué, quand ils étaient Khmers rouges. Hein. Et les gens étaient bien obligés de pardonner. Hein. J'avais vu un reportage poignant hein, au Cambodge. Dans un village, quelqu'un a dit « lui a tué ma mère ». Et il cultivait sa rizière, lui il cultivait sa rizière, et puis voilà, ils cohabitaient comme ça. Il avait pas eu, la justice n'était pas passée. Et donc c'est un pardon ici naturel, forcé. Mais il se trouve que ce professeur de boxe était catholique. Et que, figurez-vous, que ce garde rouge revenant au village, après le bond en avant, n'est-ce pas, ça s'agit tellement qu'il demande le baptême. Et on se retrouve dans la communauté chrétienne de ce village avec le professeur et son élève, sans justice civile et, ni pénale pour ce qui s'était passé. Eh bien, la petite histoire dit que le jour où il lui a pardonné, cet homme est mort. Dans les jours qui ont suivi, il est mort. Parce que ce pardon, vous voyez, lui a trop coûté spirituellement, et ça rejaillit sur le corps. Et le corps, il n'a pas supporté l'effort de l'âme. Et, mais la justice est préservée dans le sens où c'est celui qui est offensé qui pardonne.
Oui.
Et Dieu, lui, respectera les désirs des uns et des autres. Seulement, il prévient. Si vous ne voulez pas pardonner, eh ben moi je ne vous pardonnerai pas non plus. Donc vous voulez la stricte justice pour les autres, à ce moment-là, moi, à votre mort, j'appliquerai la stricte justice pour tout ce que vous avez fait, jusqu'au plus petit mensonge. Vu comme ça, ça fait réfléchir. Et c'est bien ce que dit Dieu hein, sur le pardon. Hein. Il dit, vous voulez la justice? Très bien. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et peut-être que là, vous aurez les... vous aurez une indigestion de justice. N'est-ce pas? Parce que vous aussi, vous serez punis pour toutes vos injustices.
Il a aussi dit qu'on se servira avec, pour vous de la même mesure.
Voilà. Avec laquelle on mesure les autres. Ça, c'est le vrai Dieu. Hein. Le vrai Dieu, il est très, très bon. Et très, très juste. Et très, très bon aussi. Et si on fait miséricorde, eh bien, ça fait plus plaisir à Dieu. D'où, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Juste après la justice, vous voyez, c'est un petit clin d'œil de Dieu. Disant, tu veux lui donner 10 coups de bâton? Très bien. Mais n'oublie-toi pas que toi, tu les auras aussi. Mais si tu me demandes à ce qu'il n'ait pas les 10 coups de bâton, s'il regrette aussi, hein, alors je ne te donnerai pas non plus tes 10 coups de bâton si tu regrettes. Vous allez me dire, mais ah, c'est ça la religion, hein, les coups de bâton. Oui, mais le Christ le dit. Hein. Il dit que ceux qui connaissent plus la vérité que les autres et qui pêchent mériteront plus de coups. Et ceux qui étaient ignorants de la pleine vérité auront moins de coups. Donc les païens, vous voyez, les Incas du 9e siècle, eh bien, ont été jugés de manière plus clémente, parce que l'atmosphère générale était au sacrifice humain tout le temps, que des chrétiens d'un village gallo-romain, qui priaient, qui avaient connu Sainte Geneviève, qui avaient connu tous ces saints extraordinaires, parce que quand même, Sainte Geneviève, on est dans les années 400, et je peux vous assurer que les mœurs étaient extrêmement sévères. Et que quand vous avez un roi qui arrivait au pouvoir, il tuait tous ses frères pour récupérer les parties du royaume qui étaient réparties selon la loi d'hérédité. Bienheureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Les cœurs purs, eh bien, ce sont ceux qui usent de la sexualité de manière naturelle. Ce n'est pas forcément ceux qui sont chastes, qui sont continents. Une personne mariée peut être chaste. Parce que l'expression de son amour par l'acte sexuel est pure. Alors, étant donné la faiblesse humaine et le péché originel, vous avez les puritains, n'est-ce pas, qui disent que ça sera toujours un péché. Et l'Église, elle, va dire c'est difficile d'avoir une très grande spiritualité en matière sexuelle. Mais c'est possible. Mais voyez-vous, même l'homme le plus fidèle, s'il voit une très belle femme, il peut reconnaître cette beauté et son instinct naturel peut être attiré, mais qu'il ait la force d'âme très légère et simple de se dire « oui, mais c'est pas ma femme », voilà, c'est la vraie pureté. Oui. Ou justement un célibataire, un moine, un prêtre, ou une religieuse qui vont devant quelqu'un de très beau, vont dire, eh ben c'est bien, le bon Dieu a fait de belles plantes, mais moi j'ai choisi autre chose. Et les cœurs purs. Et il y a aussi des gens qui sont très sensuels et qui chutent souvent, mais qui sont purs dans le sens où ils reconnaissent que ce n'est pas bon. Et donc c'est un désir de pureté qui peut justement montrer qu'ils sont finalement en leur cœur pur, puisqu'ils ils rejettent leur faiblesse. Et donc il y a des gens qui ont des combats assez durs contre la pureté, et qui disent « je suis damné ». Voilà. Et alors qu'en fait, si justement ils sont patients et persévérants, ils sont loin d'être damnés. Parce que eux, justement, sont finalement purs.
Ils sont conscients.
Parce que, non, mais ils luttent contre ces chutes. Mmh. Vous avez des gens qui sont moins libidineux et moins sensuels, mmh. et qui tombent beaucoup moins souvent, mais qui sont en fait impurs. Mmh. Dans le sens, ils pensent qu'à ça, quoi. Ou ils pensent souvent à ça, et quand ils y pensent, c'est graveleux, c'est très graveleux. Même des gens très raffinés, hein, mais qui justement vont corrompre, vont aimer. Vous voyez, tous ceux qui font les programmes pour les enfants, où vous avez des personnes nues et tout ça, eh ben, ils ont beau ne pas aller voir une prostituée ou être fidèles à leur femme, ce qui peut être rare à mon avis, puisque pousser les gens à la débauche, à mon avis, ils doivent être débauchés probablement. Mais bon. Imaginons que ça soit quelqu'un qui veulent intellectuellement pourrir les autres, voyez, mais qui eux-mêmes ne sont pas vraiment portés à la sensualité. Mais ils sont très impurs. Oui.
L'Église réagit peu à cette ambiance.
Les hommes d'Église actuels, vous voulez dire.
Oui.
L'Église, elle est pure, sainte, immaculée, elle ne pêche pas. L'Église, c'est le catéchisme de l'Église catholique. L'Église, oui. C'est le Christ. L'Église ne... Oui. Que les hommes d'Église soient des lâches, des chiens muets, des peureux, ou des pervers, d'ailleurs, ça ne touche pas l'enseignement de l'Église.
Oui, c'est ça, je veux voir.
Mais oui, mais c'est pas... C'est une abstraction difficile, parfois, oui. Bienheureux les pacifiques, c'est une haute béatitude, hein, car ils seront appelés enfants de Dieu. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, il faut être objecteur de conscience. Vous voyez, porter les armes pour défendre la veuve et l'orphelin, sa femme et les enfants qui sont derrière, c'est un devoir en justice. Lorsque vous avez une division d'égorgeurs qui arrive et que vous avez un pont, vous devez faire sauter le pont. Eh bien, même s'il y a des gens sur le pont, même des enfants sur le pont, parce qu'il y aura plus de morts que l'enfant qui joue sur le pont et qui ne veut absolument pas partir, alors que vous avez disposé les charges et que vous êtes là ou que vous êtes en avion. Voyez. Imaginez l'abstraction aussi. Voyez. Seigneur Jésus reçoit l'âme de ce petit enfant qui joue sur le pont et qui ne veut décidément pas partir. Ça fait la 10e fois que je passe en rase-motte et à chaque fois, il applaudit. Mais il faut que je fasse sauter le pont parce qu'il va y avoir 500 personnes qui vont mourir. C'est ce qu'on appelle le volontaire indirect. Mais le pacifique, ça va être Saint Maurice qui commande 6000 soldats et à qui on demande de sacrifier à la statue de l'empereur. Et il dit, nous, on est égyptiens. Et les égyptiens, à l'époque, sont chrétiens. Vous ne pouvez pas vous imaginer actuellement de vous dire que les moines des déserts d'Égypte, hein, c'était parmi les plus grands saints de l'époque, la légion thébaine, ils sont là, ils disent non, nous on est chrétiens, on se bat pour l'empereur, on est vive l'empire, vive Rome, mais on ne va pas dire que l'empereur est Dieu, c'est un homme. Et il n'a pas prouvé qu'il était le fils de Dieu, contrairement à Jésus. Et Jésus, là, pour la stabilité de l'Empire, il faut que vous sacrifiez aux idoles. Ben non. Ben si, ben non. Eh bien, ces 6000 soldats auraient pu prendre leur bouclier et leur glaive pour résister. Ils ont déposé leurs armes. Hein. Ils ont été décimés, c'est-à-dire que on en tuait 60, et non même 600 la première 600. Fois. 600, puis voilà. Un dixième était tué jusqu'à... Enfin, là, il y a eu quelques centaines de morts dans la vallée de Saint-Maurice, dans le Valais, en Suisse. Bienheureux les pacifiques. Actuellement, d'ailleurs, moi, je pense qu'il ne faudrait pas prendre les armes, sauf vraiment danger immédiat. Oui. Mais il ne faudrait pas faire la guerre à ceux qui voudraient attaquer Enfin, en tout cas, vous voyez, vous avez des populations actuellement, il ne faut pas qu'elles prennent des armes. Parce que si elles sont tuées, elles sont de toute façon martyres. Et le pacifisme bien proportionné est une des meilleures armes. Regardez, les chrétiens ne se sont pas battus pendant 300 ans. Et on a eu l'Empire. On verra bien. On verra bien. Et est-ce que si les Espagnols s'étaient laissés tuer, avaient laissé la dictature communiste s'instaurer en Espagne, il y aurait eu plus de fruits? Il y a eu des milliers de prêtres et de moines et de religieuses qui ont été tués. Mais, vous voyez, alors est-ce que, si le général Franco... général Franco, il y avait 4 généraux. Hein. Lui, c'est le survivant. Mais les autres généraux étaient plus populaires à l'époque. Hein. Lui, il a survécu, donc c'est lui qui a été désigné ensuite. Mais voyez-vous, est-ce que... finalement, le christianisme espagnol aurait été plus flamboyant encore en faisant tomber la dictature après. Regardez ce qui se passe en Russie. Actuellement, la Russie redevient chrétienne fortement. Alors, le pacifisme, c'est une question. Hein. D'ailleurs, un prêtre, est-ce qu'il doit prendre un fusil pour se défendre? Vous voyez, le chrétien par l'excellence, normalement, qui est le prêtre, vous n'imaginez pas qu'il prenne les armes pour se défendre. C'est curieux, hein?
Vous voyez, le conseiller d'évêque, le conseiller du roi, il a une masse.
Oui.
Mais il n'a pas d'armes.
Oui.
Il conseille, mais. Parce qu'il est prêtre. Et oui. Le texte le dit bien, parce qu'il est prêtre.
Oui, oui.
Il ne tue pas.
Et alors, du coup, logiquement. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Parce que le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, le jour où on viendra en me disant, voilà, vous devez marier ces deux femmes. Non. Suivez-nous en prison. D'ici 10 ans. Hein. D'ici 10 ans. Avec une guerre avant. Probablement une guerre avant, puisqu'il faudra que la gouvernance mondiale soit toute puissante et moralisatrice pour qu'on oblige toutes les religions à adopter l'avortement, l'euthanasie et la liberté sexuelle. Et ça sera obligatoire, parce que d'ores et déjà, voyez-vous, quand le pape dit « mais c'est quand même pas normal, on a dit un garçon je veux devenir une petite fille parce qu'on me l'a dit à l'école ». Là pour l'instant, mais vous avez vu comme on a attaqué le pape.
C'est effrayant.
Alors que c'est le pape François.
Oui, oui, alors on en a jamais.
Et donc imaginez la puissance de la Pravda dans les années futures, lorsqu'ils auront le pouvoir total. Mais auparavant, ils auront dû éliminer la Russie et d'autres pays, quoi. Mais c'est ce qui va arriver. Excusez-moi d'être aussi pessimiste ce soir. Vous serez... Comment ?
Il y a bien heureux du pessimisme ?
Non. Ah non, 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 il ne faut pas être pessimiste. Vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront. Vous voyez, vous êtes contre l'avortement, donc... Vous maudiront, parce que ça sera au nom de Dieu. Et vous persécuteront lorsqu'ils vous sépareront de de la communauté. Et qu'ils vous chargeront d'opprobre lorsqu'ils proscriront votre nom comme funeste à cause du Fils de l'homme. Et qu'ils diront mensongèrement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Par exemple, qu'on est des fascistes, des nazis, oui. Qu'on veut faire des camps de concentration. Vous voyez, à sa mairie, on bénit des couples homosexuels. Le mois dernier, un couple de femmes a été béni par un prêtre à la paroisse de sa mairie. Mais ils ont raison, c'est eux qui ont l'avenir. Ils sont loués par les hommes. Nous, nous serons proscrits, maudits, parce qu'on... Eux, ils sont bien, ils sont ouverts, ils sont... Et nous, nous sommes des pauvres types. C'est tout. Vous sentez bien que vous n'osez pas aller voir le cardinal 23 pour lui dire « Mais comment ça se fait qu'on tolère ce qui se passe à Saint-Méry ?» Vous sentez pas que vous n'avez pas le pouvoir d'y aller ? Non, mais vous voyez ?
Pour lui écrire avec le denier du culte.
Oui. Mais vous voyez, on est dans une certaine impuissance.
Ouais,
vous serez heureux lorsque les hommes vous haïront, vous maudiront et vous persécuteront. Voilà. Et ça va arriver. Réjouissez-vous en ce jour et tressaillez de joie. Vous comprenez pourquoi on ne devrait pas être triste d'être catholique actuellement, dans ces temps très durs? Parce qu'en fait, vous voyez, donc Madame Cocucio-Morizet vient de dire qu'il faut la PMA pour les couples de lesbiennes. Pourquoi pas pour les couples d'hommes homosexuels? Là, elle s'est pris les pieds dans le tapis, mais vraiment royalement. Oui. Voilà, alors Cocucio-Morizet propose, et puis je ne sais plus quelle autre est d'accord aussi.
Elles sont toutes, et puis les mères. Non,
pas
toutes.
Voilà. Non, mais là, c'est très intéressant, parce que elle est de droite. Donc en disant ça, c'est une avancée maçonnique extrêmement importante.
Il l'a déjà fait en passant son frère.
Voilà, mais c'est très important. Eh bien, réjouissez-vous, tressaillez de joie, c'est pas grave tout ça. Vous essaierez de donner un enfant, un père et une mère, et puis si vous pouvez pas, si on vous tue, si on vous persécute, mais vous aurez fait votre devoir. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez, le cardinal Caffara avait écrit au Carmel de Fatima, de Leira, pour demander des prières, sachant que sœur Lucie, bien sûr, était dans ce Carmel, mais il a dit à la mère supérieure, je priais pour le conseil pour la famille qui va être fondé. Eh bien, sœur Lucie, ayant entendu l'intention de prière à la chapelle, a écrit au cardinal Caffara. Et vous savez, une lettre que sœur Lucie... D'abord, elle l'écrit, ensuite la mère supérieure, tombe en syncope, doit être réanimée, fait une semaine à l'hôpital, ensuite contacte le nonce, l'évêque du lieu, on scrute l'écrit, on voit si ça va provoquer une guerre mondiale ou un machin comme ça, enfin voilà. Et puis bon, ils l'ont lu et relu, et j'ai dit bon, hein, au bout de 500 ans, la lettre a été quand même envoyée, de vérification et autres. Eh bien, le cardinal Caffara a quand même reçu la lettre de sœur Lucie. Et en effet, c'était une lettre incendiaire, hein, puisqu'elle disait, très bien, priez, nous allons prier pour vous, priez bien sûr pour ses intentions, car l'ultime et le dernier combat entre le Christ et Satan sera sur la famille. Et ceux qui défendront la sainteté du mariage seront ceux qui seront dans ce dernier combat. Sœur Lucie, hein, dans les années 80, au cardinal Caffara, voire 90. C'est ainsi que leurs pères ont persécuté les prophètes qui furent avant vous. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, hein, en ce qui concerne le martyr. Quiconque ressemblera au maître sera parfait. Qui va être crucifié.